Alors, ce soir, j'aimerais vous parler d'un événement que vous avez tous remarqué. Il fait froid. Oui, il fait très froid en Auvergne, mais aussi dans toute la France et dans toute l'Europe. En Corse, en Grèce, en Italie, même en Turquie, on n'échappe pas à cette terrible vague de froid. Que vous soyez riche ou pauvre, sans domicile ou candidat à la présidentielle, rien ne vous empêchera de grelotter ou d'avoir un rhume. A priori, donc, nous sommes égaux face au froid. Sauf que c'est un peu faux. Bien sûr, quelle que soit votre richesse ou votre fonction, vous grelotterez à peu près de la même manière si vous vous trouvez dans des conditions semblables. Mais justement, l'inégalité face au froid réside dans le fait que nous ne sommes pas confrontés au climat dans des conditions semblables. Car si vous avez les moyens, vous pouvez choisir votre logement, un logement bien isolé, avec si possible un chauffage collectif. Mais pour la plupart d'entre nous, notre choix d'habitat est limité par des contraintes financières. Et l'hiver, c'est la double peine. Les logements au loyer moins coûteux, moins bien isolés, nous poussent à devoir consommer bien plus d'énergie pour atteindre la même température ambiante. Et lorsque nous recevons la facture EDF, les plus modestes sont amenés à payer des sommes parfois vertigineuses, tandis que d'autres, plus aisés, ne verront pas leur facture augmenter significativement, et c'est une forme d'injustice. Mais il y a bien pire, oui, car certains n'ont nulle part où loger, où s'abriter, ils doivent subir en espérant un brin de générosité. L'inégalité la plus flagrante lorsqu'il fait froid se trouve entre celles et ceux qui disposent d'un abri et celles et ceux qui n'en disposent pas. C'est une inégalité qui est parfois gage de survie pour les uns et de mort pour les autres. Car l'on meurt dehors, nous le savons, et le redécouvrons chaque hiver. Et il est heureux que les pouvoirs publics, avec l'argent issu de nos impôts, viennent en aide aux sans-logis pour tout simplement sauver leur vie en ouvrant par exemple des gymnases. Ce droit à la survie rétablit en théorie un minimum d'égalité. Mais loin de Clermont-Ferrand, en Italie, en Grèce et dans les Balkans, les sans-logis sont nombreux et la rigueur d'une Europe devenue autiste a fusillé la capacité des États à loger ceux qui n'ont nulle part où aller. Dans ces pays, il y a ceux qui n'ont nulle part où vivre, car trop pauvres, mais il y a aussi un très grand nombre de réfugiés qui fuient la guerre et ses horreurs pour survivre. Alors, face au froid, l'on voudrait que des pays si faibles puissent seuls assumer la survie de chacun, sans pour autant revenir sur la rigueur. En leur demandant cela et en refusant d'accueillir une partie de ces êtres humains en détresse, comme le pays des droits de l'homme se devrait de le faire, eh bien nous poussons des milliers de personnes vers un risque de mort. Visiblement, les noyades ne furent pas une alerte suffisante puisque nous recommençons encore et encore à fermer les yeux et à ne surtout pas vouloir comprendre l'ignominie de la situation. Le froid tue et dans les conditions actuelles, il peut tuer beaucoup. Le froid est autant meurtrier pour les SDF que pour les réfugiés. Et ce serait ça, la France et l'Europe, laisser mourir celui qui fuit la guerre? Et pourquoi? Pour ses origines? Pour sa religion? Est-ce que l'objectif des 3% vaut la mort de tant de gens? Face au froid, nous ne sommes pas égaux. Il y a ceux qui ont les moyens de ne pas être affectés, ceux qui ont seulement les moyens d'être abrités, mais sont affectés, et ceux qui n'ont même pas les moyens d'être abrités. Une société civilisée ne devrait pas laisser le revenu décider de la survie. Même si ce n'est pas à la mode, nous avons besoin de solidarité. Nous avons besoin que les associations et les organismes publics aient une place pour tous, surtout lorsque tant d'immeubles restent inoccupés. Mais les logiques égoïstes nous poussent à trouver les arguments nécessaires à garder bonne conscience, tandis que l'autre meurt devant la porte fermée de la générosité. Il fait froid, mais peut-être davantage dans nos cœurs qu'au dehors.
Bonjour à toutes et à tous, Barbara sur les ondes du 93.3 pour une nouvelle édition de Quoi de neuf Doc, l'émission de l'association Doctovergne consacrée à la vulgarisation de la science. Vous venez d'entendre le billet d'humeur de Jules Barthélémy, doctorant en droit public, billet d'humeur engagé mais glacial. Alors nous allons essayer de réchauffer un petit peu l'atmosphère ce soir. D'ailleurs, en parlant de chaleur et d'engagement, avant de passer sans trop tarder au sommaire de cette émission, je tenais à vous parler d'un événement qui a lieu en ce moment même et qui a lieu jusqu'au 21 janvier, l'inauguration de Radio Campus. En effet, avec les nouveaux locaux dans le pôle 22 bis, il y a un programme d'inauguration qui a débuté aujourd'hui et qui dure jusqu'à samedi, avec notamment la reprise du Live in Room demain soir à partir de 18h, avec pas moins de 4 concerts, un repas partagé suivi d'une soirée festive vendredi soir et bien d'autres choses encore. Donc pour en savoir plus, venir vous mettre au chaud, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la radio www.campus-clermont.net. Alors maintenant que cela est dit, je vous propose de nous concentrer sur le programme du jour, d'autant qu'il risque de ne pas être si facile d'accès, et peut-être d'ailleurs glacial au premier abord. Les chroniqueurs et invités ont en effet décidé de placer la barre haut ce soir, alors restez accrochés. Pour commencer, nous recevrons Sandra Rouget, docteur en droit public, pour un focus actu plus que d'actualité, puisque nous évoquerons la loi de finances pour 2017. Je vous ai dit que c'était assez glacial. Et là, elle me frappe. J'espère d'ailleurs que les chroniqueurs ont travaillé sur le sujet pour pouvoir vous offrir un échange intéressant. Là, ce sont les chroniqueurs qui vont finir par me frapper, donc je vais rester dans mon coin, derrière mon micro. Juste après, Arthur Chassagnol, docteur en mathématiques fondamentales, vraiment glacé ce soir, je vous ai dit le programme, nous présentera une nouvelle chronique, Vertige mathématique. La chronique de ce soir s'intitule « Une histoire d'infini ». Je vous l'ai dit, restez accrochés, vous risquez de tomber. Puis Olivier Carvin, doctorant en sciences économiques, recevra Rafik Arfaoui, doctorant en géographie au CERAMAC, pour le traditionnel 8 minutes avec. Espérons que son sujet de thèse ne sera pas trop compliqué pour que nos neurones puissent souffler un peu. Puisque ensuite, je laisserai le micro à Clément Matona, doctorant en sciences économiques, pour un avez-vous lu consacré à l'ouvrage de René Girard, La violence et le sacré. Enfin, le dernier mot sera pour Fabien Devilliers, notre service civique avec le DIC Auvergne. Mot de la fin pour cette émission, mais mot de la fin aussi pour lui, puisque son service civique s'achève à la fin de la semaine, et il s'achèvera donc sur le mot thermodynamique. Il aurait pu choisir le mot soutenance après réflexion, je crois que c'est comme cela qu'un doctorant aime quitter la piste. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Trêve de jeu de mots, je vous propose de bien ouvrir vos oreilles, de vous concentrer et de suivre en notre compagnie le Focus Actu du jour.
Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward.
Doctorants et docteurs voient l'actu.
We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it.
C'est Focus Actu.
Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous.
Alors peut-être une petite précision pour les auditeurs. Donc Sandra est juriste et plus précisément fiscaliste. Elle est donc là pour nous présenter la loi de finances de 2017 qui a priori réserve son lot de surprises. Alors si tu es d'accord Sandra, peut-être avant qu'on te pose des questions, pourrais-tu rapidement expliquer ce qu'est une loi de finances et quelles sont les principales dispositions de la loi de finances pour 2017 ?
La loi de finances est l'un des textes clés, l'un des textes phares de la fin de l'année civile. Elle décide de l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État pour l'année à suivre. Cette année, la loi de finances n'a pas été, son adoption en tous les cas, n'a pas été des plus académiques ni des plus démocratiques selon moi. En effet, le rejet du texte par le Sénat, au travers le vote d'une question préalable prévue par le règlement intérieur du Sénat, n'a pas permis à cette assemblée qu'elle puisse être discutée démocratiquement par les deux assemblées pourtant démocratiquement élues. Cette loi de finances pour 2017 a pourtant mis en place des réformes d'envergure, telles le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2018. Au-delà du prélèvement à la source, il y a également la mise en place de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés à compter de 2017 à hauteur de 28%, alors qu'il était auparavant à hauteur de 33%. Il y a des mesures également un peu plus symboliques, telles l'exonération d'impôt sur le revenu des personnes qui sont décédées à la suite d'attentats terroristes à partir du 1er janvier 2015. Alors si la mesure n'était pas si triste, finalement, on pourrait presque en rire, parce que seules les personnes qui sont décédées ont droit à une exonération d'impôt sur le revenu, et pas celles qui ont été blessées, plus ou moins gravement. L'ensemble de ces mesures est donc contenu dans la loi de finances qu'on dit initiale pour 2017, qui s'inscrit dans un contexte politique particulier compte tenu des élections présidentielles en 2017, la loi de finances rectificative pour 2016 et la loi de financement de la sécurité sociale également pour 2017. Les mesures qui sont comprises dans ces différentes lois sont des mesures assez techniques qui ne parlent pas directement aux citoyens qui sont pourtant les premiers contribuables et les premiers concernés. L'une des mesures qui pourtant nous parle à tous, c'est la baisse de l'impôt sur le revenu qui est entrée en vigueur dès cette année et dès lundi. Une baisse de 20% de l'impôt sur le revenu pour les revenus que l'on va dire qui sont présentés comme modestes et qui ne dépassent pas 18 500 euros pour une personne seule. On voit que cette loi de finances de fin de quinquennat s'oriente dans une perspective de baisse de l'ensemble des prélèvements au niveau des différents contribuables. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite.
Est-ce que tu penses du coup que c'est une loi assez clientéliste finalement quand on arrive à proximité des élections et en fin de quinquennat et peut-être pour redorer un petit peu l'image de ce quinquennat assez compliqué?
Je ne sais pas si c'est une loi clientéliste. En tous les cas, c'est une loi qui marque la fin d'une période d'augmentation significative des impôts pour tout le monde. Mais en tous les cas, c'est une loi qui a été accusée de ne pas être sincère économiquement, de présenter un budget qui, a priori, n'était pas viable. Et c'est la raison pour laquelle le Sénat a décidé de ne pas discuter de cette loi cette année.
Alors, elle a été jugée donc non viable, parce que j'imagine que baisse d'impôts, baisse de rentrée d'argent. Quels sont les postes, je ne sais pas si tu as la réponse à ma question, mais quels sont les postes de dépenses qui se sont vus un petit peu, restreints?
Les dépenses sociales. Au niveau des dépenses sociales, il y a eu un certain nombre de restrictions. Mais dans l'ensemble, on est sur une certaine stabilité sur l'ensemble des dépenses publiques qui existaient auparavant.
D'accord. Alors, je monopolise les questions, hein, mais si vous avez des questions, vous avez le droit également d'intervenir. Moi, j'ai...
Je pose une question, c'est une question un peu plus politique que juridique, mais est-ce que le fait que le président du Sénat soit quand même un fervent partisan dès les primaires de François Fillon, ça, on peut considérer que ça a joué dans cette décision assez politique au final du Sénat?
Oui, je pense qu'on peut le dire assez ouvertement. Hein, les sénateurs de gauche étaient favorables hein, à une discussion. La question préalable, elle vient de la majorité de droite du Sénat. Donc il est tout à fait possible que, effectivement, les élections, etc., aient contribué au fait que le Sénat décide de ne pas discuter de cette loi. Il y a une véritable, il y a une espèce, selon moi, de prise en otage de la loi de finances qui va déterminer en fait la vie politique de la nation pour l'année suivante et avec le prélèvement à la source sur bien d'autres années encore. Il y avait une véritable prise en otage du démocratique et du droit finalement par le politique.
Est-ce que le Conseil constitutionnel a été saisi sur cette loi?
Oui, le Conseil constitutionnel a été saisi sur cette loi. Donc il y a des mesures comme la taxe Google, par exemple, qui ont été censurées. C'était pourtant des mesures assez importantes, mais il ne s'est pas prononcé, par contre, sur le fait que le Sénat ne s'était pas prononcé hein, sur cette loi. Alors, l'explication que moi j'ai, c'est que la question préalable, c'est quelque chose, c'est une procédure qui est prévue par un texte qui ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité, donc le Conseil constitutionnel, de toute manière, ne pouvait pas en opérer le contrôle. Voilà. Et ça pose un problème parce qu'on voit qu'on assiste à la mise en place d'une certaine paraconstitutionnalité qui permet, ou en tous les cas qui empêche les institutions de fonctionner démocratiquement normalement, mais qui ne peut pas faire l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel.
Donc si on revient sur cette loi, c'est quand même une loi adoptée dans des conditions très particulières et qui pourtant prévoit une réforme plus que conséquente. Moi, je pense surtout à l'imposition à la source.
Ouais.
Et du coup, d'un point de vue très pratique, je sais que ça avait été beaucoup débattu puisque imposé à la source en 2017 supposait soit, on va dire fiscalement, de perdre les revenus de l'année 2016, soit de faire une double imposition en 2017. Alors, si j'ai bien suivi, je pense que c'est plutôt la deuxième solution qui a été... choisi, mais peut-être que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus.
Alors, il n'y aura pas ni véritablement d'année blanche ni de double imposition. En fait, en 2017, on va payer, comme on le fait d'habitude, les impôts que l'on a déclarés, enfin, les impôts qui sont dus au titre des revenus 2016. Et en 2018, on paiera les impôts 2018. Donc, effectivement, on a l'impression que la fiscalité sur les revenus de 2017 n'aura jamais lieu, mais en matière de trésorerie, en matière de flux de trésorerie, pour l'État, ça ne va rien changer. Il ne va pas perdre une année en trésorerie de recettes fiscales.
Oui, mais là, il y a peut-être quand même certains qui vont en profiter. Enfin, moi, je vois, je me fais avoir parce que là, je suis au chômage, donc je gagne moins. C'est l'année où j'aurais été imposé là-dessus où je perds, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui vont, à l'inverse, en profiter pour avoir de grosses rentrées d'argent sur l'année qui ne va pas être imposable?
Alors, oui, mais il y a un mécanisme qui a été prévu, en fait. Donc, le prélèvement à la source pour 2018, ce sera sur les traitements et salaires constants tels qu'ils sont versés par l'employeur. Et tous les revenus exceptionnels continueront à être déclarés et feront l'objet d'une imposition complémentaire. D'accord. Donc, il n'y aura pas... Il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour éviter que l'on puisse tricher.
Ah non, mais c'est intéressant de le savoir, parce que je pense que tout le monde s'est posé la question et s'est demandé comment ça allait être mis en œuvre, justement, pour pas qu'il y ait trop d'abus à ce moment-là.
Oui, mais ça permet également une certaine, entre guillemets, stabilité économique, parce que derrière les questions fiscales, il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur ces questions-là, de défiscalisation, d'investissement, et qui avaient quand même besoin de pouvoir connaître un petit peu les modalités de ce prélèvement à la source, mais ce sera sur des flux constants. Donc, s'il y a des grosses rentrées d'argent ou des plus-values ou des ventes d'actions, ce genre de choses, de toute manière, il continuera à avoir une imposition à part entière sur ce genre de revenus.
D'accord.
Et est-ce que dans l'hypothèse d'une alternance avec... l'ancien PDG d'AXA...
Je n'aime pas sa question. Je sens que je ne vais pas l'aimer, sa question.
On sent que l'ancien PDG d'AXA est pressenti pour, si François Fillon était élu, devenir le nouveau ministre du budget, Henri de Castries. Est-ce qu'il s'est déjà prononcé sur le prélèvement à la source, puisque est-ce que l'alternance pourrait mener à un abandon de l'imposition à la source?
L'alternance pourrait mener à un abandon du prélèvement à la source. L'idée du prélèvement à la source peut être une bonne idée, en fait. Se dire qu'on va être prélevé en matière fiscale directement sur les revenus dont on dispose et non pas avec un décalage d'un an qui peut entraîner des difficultés pour certains, parce que d'une année à l'autre on peut être au chômage, on peut tomber malade et on va quand même devoir payer son imposition sur les revenus qu'on a eu l'année antérieure alors qu'on n'a pas forcément les fonds l'année du paiement pour pouvoir les acquitter. Donc l'idée du prélèvement à la source est de rendre l'impôt contemporain du revenu et que finalement l'imposition colle parfaitement avec les revenus dont vous disposez. Et c'est en tous les cas comme ça qu'elle a été présentée lors de sa discussion à l'Assemblée nationale. Effectivement, certains ont dit, on a pu l'entendre à la radio, que s'il y avait une alternance, le prélèvement à la source serait abandonné. Ça commence à s'atténuer un petit peu à ce niveau-là. Il serait peut-être remis le mécanisme, certaines choses seraient peut-être remises en cause, mais l'idée, le principe du prélèvement à la source, je ne pense pas qu'il sera abandonné, parce que c'est quelque chose qui existe dans de nombreux États européens, au Danemark, en Italie, et qui est plutôt qui apparaît comme un élément de la fiscalité moderne.
D'ailleurs, sur ces modalités pratiques, je ne sais pas si je vais me tromper ou pas, mais du coup, l'impôt serait directement prélevé sur les salaires et après, il y aurait une remise à niveau en fonction des plus-values, etc. à la fin de l'année.
Il y aurait une déclaration complémentaire. Il y aurait d'abord l'impôt. Quand on va recevoir son salaire, il y aura un prélèvement qui sera déjà opéré et qui doit être fait par l'employeur. Certains, d'ailleurs, avaient demandé que l'employeur puisse être rémunéré à ce titre-là. Bon, finalement, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait déjà le système de la TVA qui prévoyait une collecte par par des entreprises qui ne faisaient pas partie de l'administration fiscale et que ça se passait très bien. Donc les employeurs, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'ils devraient être financés pour assurer cette collecte-là. Et donc il y aura soit l'administration va informer l'employeur du taux qui s'applique à son salarié, mais le salarié pourra choisir un taux neutre, de façon à ce que l'employeur ne soit pas au courant finalement du pourcentage d'imposition qui s'applique à son foyer. Donc il pourra quand même y avoir une certaine protection de sa vie personnelle. Parce que sociologiquement, ce n'est pas évident non plus de dire à quelqu'un que son employeur va être au courant des revenus qui sont perçus par son foyer. Voilà. Et surtout en France. Il y avait des études sociologiques qui avaient été faites là-dessus et qui démontraient qu'en France, il y avait véritablement un caractère assez réfractaire à ce qu'on puisse donner ce genre d'informations personnelles à son employeur.
Oui, je vois que tout a été bien pensé. Alors peut-être une dernière question, rapidement, très rapidement.
Dernière question. Est-ce que le prélèvement à la source, c'est pas quelque part une sorte d'anesthésie fiscale, un peu comme la TVA?
Pour que ce soit moins douloureux?
Oui,
à la fin. Oui, il y a cette idée-là. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont mensualisées. Donc pour elles, ça ne va pas changer forcément grand-chose parce qu'elles ont déjà prévu de lisser le poids de l'impôt et la lourdeur de l'impôt sur l'ensemble de l'année. Mais effectivement, ça paraît politiquement, je pense que c'est quelque chose qui peut être important parce que ça permet d'atténuer le choc de l'imposition par tiers lorsqu'il arrive au mois d'août, par exemple.
Écoute, merci beaucoup Sandra pour toutes ces informations. Je pense que tout le monde en aura appris un petit peu plus. Puis je vous propose une petite pause musicale. I spend the night in a chair thinking she'll be there, but she never comes. And then I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without her. It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room, and then you go inside and set a table for one. It's no fun when you spend a day without her. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. We burst the pretty balloon and took us to the moon. Such a beautiful thing, but it's ended now, and it sounds like a lie if I say I'd rather die than live without her. Do 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 do. Love is a beautiful thing when it knows how to swing, and it grooves like a clock, but the hands on the clock tell the lovers to part, and it's breaking my heart to have to spend another day without her. Do 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 do. I spend the night in a chair thinking she'll be there, but she never comes. And then I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without her. Do 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 do. Can't go on without her. Do 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 do. There's no song without her. Entendre le titre magnifique d'Harry Nilsson, Without Her, choisi par Sandra. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc. Après avoir parlé de fiscalité, quoi de plus logique que de parler de mathématiques? Décidément, les chiffres sont partout, enfin surtout dans la chronique d'Arthur, ses vertiges mathématiques.
Vertige mathématique.
Bonjour à tous. Alors, pour commencer, je vais juste faire une petite dédicace à mon adorable petite cousine Nayeli qui fête aujourd'hui ses 9 ans. Voilà Nayeli, je te souhaite un joyeux anniversaire et je te fais des gros bisous. Reprenons maintenant un peu avec des mathématiques. Donc la dernière fois, on a évoqué l'infini à travers la convergence de séries. Et aujourd'hui, j'ai envie que l'on se penche sur cette notion d'infini et plus particulièrement sur les ensembles infinis. Il faut savoir que l'étude systématique d'ensembles infinis en mathématiques ne débuta véritablement qu'au XIXe siècle avec l'un des pionniers en la matière que fut le mathématicien allemand Georges Cantor. Sa passion pour les ensembles infinis était loin de faire l'unanimité à l'époque, puisque de nombreux de ses collègues n'étaient pas du tout d'accord avec cette vision presque de diablotin, diablesque, je trouve pas l'adjectif, c'est pas grave, puisque certains, comme diabolique. Le logicien... Oui, vas-y, Barbara.
Diabolique.
Diabolique, voilà, exactement. Le logicien Léopold Kronecker allant même jusqu'à dire de Cantor qu'il était un corrupteur de jeunesse. Alors je vais, à mon tour, tenter un petit peu de vous corrompre en m'intéressant avec vous aux ensembles infinis. Le plus naturel, le premier que l'on rencontre, est l'ensemble grand N des entiers naturels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres positifs, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Mais vous en connaissez d'autres, il y a l'ensemble grand Z des entiers relatifs, où on ajoute les entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Puis l'ensemble grand Q des rationnels, c'est-à-dire des fractions, 2 tiers, 3 septièmes, moins 8 douzièmes, ce que vous voulez. Et puis pour finir, l'ensemble dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler au lycée, l'ensemble des nombres réels, grand R. Une question à laquelle Cantor voulait répondre était de savoir si ces ensembles avaient autant d'éléments. Autrement dit, y a-t-il des infinis plus grand que d'autres? Deux ensembles infinis ont-ils forcément la même taille? Alors pour répondre à cette question, je vais commencer par un cas particulier, qui est de se demander est-ce que l'ensemble des entiers positifs est plus grand, au sens a-t-il plus d'éléments, que l'ensemble des entiers pairs? Alors intuitivement, vous avez certainement envie de dire oui, qu'il y a plus d'entiers que d'entiers pairs, puisque les derniers sont inclus dans les premiers. Mais ce raisonnement ne fonctionne pas sur les ensembles infinis, qui sont, croyez-moi, bien plus vicieux qu'ils n'y paraissent. Alors, pour étudier cela, laissez-moi vous présenter l'hôtel de Hilbert, du nom d'un autre grand mathématicien allemand. Imaginez un hôtel qui aurait un nombre infini de chambres numérotées par les entiers, en commençant par la chambre 0, puis la chambre 1, la 2, la 3, et ainsi de suite. Imaginez maintenant que cet hôtel affiche complet. Il y a un unique client dans chacune des chambres. C'est alors que le maître d'hôtel fait l'annonce suivante au micro, retransmise dans toutes les chambres. Chaque client va quitter sa chambre pour aller dans la chambre dont le numéro est le double de la sienne. Alors cela signifie que le client de la chambre 1 va dans la 2, que celui de la 2 va dans la 4, de la 3 dans la 6 et ainsi de suite, celui de la 25 dans la 50, de la 73 dans la 146, etc. Alors quel est le résultat de cette opération ? Eh bien, les clients de l'hôtel se retrouvent maintenant uniquement dans les chambres paires. Ils occupent exactement toutes les chambres paires. Par exemple, la chambre 26 est maintenant occupée par l'ancien client de la chambre 13. Celui de la 54 par l'ancien client de la chambre 27. Et pourtant, lors de cette opération, l'hôtel n'a ni gagné, ni perdu de clients. Vous êtes d'accord ? Donc vous voyez que cette réorganisation montre qu'il y a autant d'entiers que d'entiers pairs, puisqu'il nous a fallu autant de clients pour remplir toutes les chambres de cet hôtel que pour remplir uniquement les chambres paires. Et alors, les choses ne s'arrêtent pas là, il y a beaucoup plus fort. Puisque par un procédé un peu similaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi autant d'entiers que de nombres rationnels. Et là, c'est beaucoup plus fort. On a l'impression qu'en prenant en compte toutes les fractions, ça fait du monde. Eh bien, il y a autant de fractions que d'entiers. Autrement dit, les ensembles grand N et grand Q ont autant d'éléments. Ils représentent le même infini. Alors se pose maintenant la question qui a beaucoup agité Cantor. Et qu'en est-il pour l'ensemble des réels grand R ? A-t-il lui aussi autant d'éléments que grand N ? Eh bien cette fois, la réponse est non. Et c'est ce diable de Cantor qui l'a très joliment démontré en 1874. L'ensemble des nombres réels est un ensemble véritablement plus gros que l'ensemble des entiers. On dit que cet ensemble est non dénombrable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme pour l'ensemble des entiers et l'ensemble des rationnels, représenter, énumérer les éléments de R en commençant par le premier élément à qui on donnerait le nom 0,1, à qui on attribuerait le nombre 1, le deuxième élément, le troisième élément, le quatrième élément. Ce n'est pas possible de faire ça avec les réels. On ne peut pas les ranger de manière à les numéroter un par un. Nous voici donc en présence de deux infinis différents, celui des entiers et celui des nombres réels. Alors j'imagine que vous vous posez tous la question naturelle qui suit. Existe-t-il des infinis qui soient situés entre ces deux ? Plus grand que les entiers naturels, mais plus petit que celui des nombres réels. Eh bien, je vais vous laisser réfléchir à cette question, puisque ça me permettra d'introduire ma prochaine chronique le mois prochain. Alors, pour les plus curieux, je vous laisse taper l'hypothèse du continu sur Google pour en savoir un peu plus. En attendant, je vous laisse avec la chanson « Y'a urgence » de Kenny Arcana, une chanson qui n'a rien à voir avec cette chronique.
Y'a urgence, la terre tremble. Et l'homme se divertit tout fièrement jusqu'à ce que la somme le vertige. Un cycle d'un temps, la matrice en somme est percée. Nous perce de roman pour nous endormir hyperfile. Éternel présent, alors remercie et respire. Dernière oppression, plus grande que tous ces vestiges. Juste à maison, à nous rêver que de prestige. Prisme de la raison, ton royaume est devenu presqu'île. On ne peut s'échapper, attaché comme une presqu'île. Le respire à devenir humain, la vie nous destine. On les voit s'acharner sur les plus pauvres vestiges. Ignore tout de la douleur, faudra qu'on extirpe. Du monde moderne n'a aucune modestie. Des gosses à fouiller, des filles de joie et des domestiques. Tente sur nous ces lois, ce site collectif. On s'est trop détruit, même pire, allez leur dire que y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites, ouais. Y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Partout la haine et la reine, partout elle sème la peine. Et y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Canon sur la temple, l'être humain se suicide, ouais. Y'a urgence, 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 y'a urgence. C'est seul les tabous ici, la folie est partout. Toutes les idées nouvelles, la société désapprouve. Normal qu'on pète les plombs, génération née à genoux. On ne sait ce qu'est l'amour, nos dirigeants sont des voyous. La terre tremble et l'homme s'est perverti tout tellement. Il s'est éloigné de l'esprit. Musique, nouveau temps, l'ancien monde qui s'exile. La Grèce qui sort.
lâche prise, exclu d'un sexe pris. Insoufflonné dans l'urgence, nous on reste dit. Disent qu'il n'y a aucune chance parce qu'il a sous-estime. Leur nom n'a plus de sens, tous ceux qui vont vers le pire. Respire ici, c'est à chaque jour suffit sa réprime. Sur, mené sur, les nerfs sur, on déprime. On étouffe quand rien plus d'air, donc tant qu'on peut, on s'exprime. L'homme a commis l'adultère, sa perversion, il exhibe, il maltraite. Pour se donner l'impression qu'il existe, il danse sur sa tombe. Et de son ami s'exile, la fureur dans le sang. Tue les flammes qui s'excitent, regarde la terre tremble. Entend la terre crie, nous avertit en même temps qu'elle nous crève. Allez leur dire qu'il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites, ouais. Il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Partout la haine et la reine, partout elle sème la peine. Et tout, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Calmons sur la tempête, l'être humain se suicide, ouais. Il y a urgence, 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 il y a urgence. Les éléments se révoltent comme ceux qui ne veulent plus subir. On a trop vu les sorts et trop vécu l'injustice. De chaque côté du globe, la même urgence se dessine. Mais qu'est-ce que sera l'avenir si on ne veut pas voir les signes? Voici la dernière génération. Plus jamais l'être humain se résigne. La dernière chute ou l'élévation. C'est maintenant que l'on décide. Et sens-tu l'accélération? Maintenant de plus en plus vite, wesh, notre étoile s'éteint. L'humain s'éteint. Et leur dire qu'il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites, ouais. Il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Partout la haine et la reine, partout elle sème la peine. Et tout, y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence.
Vous êtes toujours sur les ondes du 93.3 pour Quoi de Neuf Doc. Si vous aussi vous êtes resté devant la porte de l'hôtel, je vous propose soit de réécouter éventuellement en podcast la chronique d'Arthur et d'essayer de rentrer dedans, soit de changer complètement de domaine maintenant, parce qu'une demi-heure de fiscalité, comptabilité, mathématiques, c'est beaucoup pour moi et peut-être pour nombre d'entre vous. Du coup, pour ce faire, je laisse l'antenne à Olivier qui interviewe ce soir Rafik Arfaoui, doctorant en géographie.
Huit minutes avec.
Et bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, je reçois Rafik Arfaoui, doctorant en géographie à l'UMR Territoire, et dont le titre de la thèse s'intitule « Pilotage national versus coproduction territoriale de l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires non métropolitains ».
J'avais demandé un titre facile.
Voilà, le titre fait peur, mais ne vous inquiétez pas, ça va être très, très bien compréhensible. Alors, donc, tout d'abord, une petite précision. Quand on parle de territoire non métropolitain, je pense que c'est important de préciser qu'il s'agit de territoires ruraux. Hein, on ne parle pas de la Guadeloupe ou de la Martinique, ainsi de suite. Alors, bonsoir Rafik.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Alors, première question, est-ce que tu peux nous en dire plus tout d'abord sur ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire une thèse en géographie et plus précisément sur la problématique très particulière des demandeurs d'asile?
D'accord, donc tout d'abord je suis architecte de formation, donc j'ai fait des études d'architecture à l'université d'Annaba en Algérie, je suis algérien, et j'ai travaillé par la suite dans une agence d'architecture et d'urbanisme, et après 3 ans d'expérience je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose parce que ça me correspondait pas vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une thèse. Donc, je suis venu en France et j'ai fait un master recherche en géographie à Clermont-Ferrand. Et c'est à ce moment-là que j'ai poursuivi avec une thèse. Donc, concernant le sujet de recherche, je l'ai entamé en master 2. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur la question des demandeurs d'asile? Ce sont plusieurs choses, mais principalement, c'est que j'ai développé ce sujet en Master 2 parce qu'il y avait l'actualité, donc le sujet qui était fortement médiatisé. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de regarder sur ce point-là. Mais aussi parce que avant j'ai travaillé en tant que correspondant de presse pendant près de 4 années. Et donc j'ai eu l'occasion de faire des reportages de presse sur la migration clandestine en Méditerranée, aussi sur les migrants subsahariens en Algérie. Et donc le sujet me tenait à cœur et je me suis dit qu'il fallait que je poursuive en thèse. Voilà.
D'accord. Pour en venir plus particulièrement donc, sur le sujet de thèse, donc, tu t'interroges sur l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires ruraux. Pourquoi en particulier les territoires ruraux? Est-ce qu'il existe des particularités propres à ces territoires en ce qui concerne la question de l'accueil des réfugiés politiques?
Alors, je m'intéresse particulièrement à l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires ruraux pour la simple raison que les recherches qui ont été menées sur la question des migrations internationales plus globalement et plus particulièrement sur la question des demandeurs d'asile donc, ont été menées à l'échelle de métropole, c'est-à-dire à l'échelle de grandes villes. Que ce soit au nord comme au sud. En France, par exemple, il y a eu des études qui ont été menées à Paris, à Lyon, à Marseille, et au sud, par exemple, au Caire, à Alger. Mais il y a eu peu de recherches dans des territoires ruraux. L'idée est née de là, c'est essayer de voir justement... alors, dans mon sujet de recherche, je n'analyse pas le phénomène global de la migration des demandeurs d'asile, mais j'analyse plutôt les implications à l'échelle locale de cet accueil-là, c'est-à-dire d'essayer de voir les enjeux sociaux, les enjeux spatiaux aussi, parce qu'ils sont très, très, très intéressants à analyser, les enjeux aussi économiques et les enjeux politiques, bien évidemment. Mmh.
Et donc aujourd'hui, est-ce que quelles sont les structures qui sont mises en place pour accueillir donc ces demandeurs d'asile ? Et est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont suffisantes en nombre de places pour par rapport à la demande qui existe ?
D'accord. Donc pour ce qui est des structures d'hébergement des demandeurs d'asile, donc il y en a plusieurs. Il y a principalement on retrouve les CADA. Les centres d'accueil de demandeurs d'asile, on trouve aussi les ODA, c'est-à-dire accueil d'urgence demandeurs d'asile. Mais depuis fin 2015, le gouvernement français a mis en place de nouvelles structures d'hébergement qui s'appellent CAO. Ce sont des centres d'accueil et d'orientation. Donc ce sont des structures d'hébergement qui accueillent temporairement les demandeurs d'asile pendant la période hivernale. L'idée, c'est une mise à l'abri pendant l'hiver et le temps de les réorienter par la suite vers d'autres structures d'hébergement de demandeurs d'asile. Donc c'est une idée qui est née aussi avec ce qu'on peut voir aujourd'hui en France, un petit peu cette déconcentration d'accueil de demandeurs d'asile, c'est-à-dire ne plus accueillir de demandeurs d'asile à Paris ou bien à Calais. Et donc l'idée aussi, c'est de les localiser et puis par la suite de les réorienter sur une sorte d'hébergement contraignant, sachant que les demandeurs d'asile n'ont pas vraiment le choix de décider de l'endroit où ils vont aller. Donc, et c'est une des problématiques que je traite dans mon sujet de thèse.
Ouais. Et donc tout à l'heure, tu parlais que tu t'intéressais aussi aux enjeux sociaux et notamment sur la question... De l'accueil qui est réservé à ces demandeurs d'asile par la population locale. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il existe réellement finalement des situations de conflit qui sont observées entre la population locale et les réfugiés accueillis ou est-ce que finalement c'est uniquement ça, ce qu'on voit dans les journaux télévisés, ce n'est pas la réalité du terrain ?
Alors, des conflits directs entre populations locales et demandeurs d'asile, non, concrètement, mais on peut retrouver, et puis ça a été démontré aussi, je pense au chercheur Emmanuel Bonrandi qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, notamment en Rhône-Alpes. Donc on a deux visions, deux tendances pour l'accueil des demandeurs d'asile dans la population locale. Nous avons d'un côté une partie de la population qui refuse catégoriquement l'idée même d'installer des demandeurs d'asile sur le territoire. Et nous avons, d'un autre côté, une partie de la population locale donc, qui, elle, est favorable à cet accueil parce qu'elle vante des avantages démographiques, c'est-à-dire essayer de remédier au déclin, une forme de déclin démographique dans certains territoires ruraux et certains avantages économiques. Par exemple, je pense à l'idée de redonner une activité à un bâtiment vacant.
D'accord.
Donc voilà les deux tendances principales qu'on retrouve au sein de la société locale d'accueil.
Ok. Et pour terminer peut-être, pour entrer dans un terme un peu plus technique, donc dans ton sujet de thèse, tu parles de coproduction territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la définition de ce terme et quel est le lien avec la thématique de l'accueil des demandeurs d'asile ?
D'accord, donc je vais essayer de donner une définition très simplifiée de cette notion qui est très vaste et très complexe. Donc on peut dire que c'est une action conjointe menée par des acteurs souvent hétérogènes sur un territoire donné. C'est-à-dire concrètement, pour ce qui est de l'accueil des demandeurs d'asile. En France, il y a, et c'est très récent, donc en 2015, même si l'accueil des demandeurs d'asile est depuis un certain moment décentralisé, il y a eu une mise en place au sein des préfectures, parce que c'est au niveau des départements que l'accueil des demandeurs d'asile se traite. Il y a eu une mise en place d'un nouveau poste, concrètement, qui est coordinateur, le coordinateur départemental de l'accueil des demandeurs d'asile. Donc c'est un acteur qui essaye de coordonner l'action de l'État, c'est-à-dire le pilotage national, l'action de l'État au niveau local, c'est-à-dire il essaye de coordonner l'action des bailleurs sociaux, mais aussi de la population, c'est-à-dire certains bénévoles qui essayent donc de s'investir dans cet accueil, aussi par rapport aux élus locaux. Et c'est ça l'idée de coproduire ensemble sur un territoire donné.
D'accord. Eh bien, très bien. Merci Rafik, c'était très clair.
Je t'en prie.
Et on va écouter de suite la chanson que tu as choisie, donc qui s'intitule La Bohème, la reprise par Kenji Girac.
Merci.
Merci.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid n'est payé pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre que nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contrairement repas chauds nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'enseigne du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin d'un vatin café crème. Et puis aimé ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes.
Après une musique qui a dû ravir Ludivine, à qui je fais une spéciale dédicace si elle nous écoute, je vous conseille de retrouver vos esprits pour suivre l'analyse, des fois alambiquée, de Clément dans sa chronique « Avez-voulu » qu'il consacre ce soir à l'essai « La violence et le sacré » de René Girard.
Avez-voulu ?
Bonsoir Clément.
Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, chronique peut-être alambiquée ce soir, oui, parce que je vais vous parler de l'ouvrage « La violence et le sacré » de René Girard. Alors qui est ce cher monsieur ? Sachez qu'il est né en 1923 et mort en 2005. Il se définit lui-même comme un anthropologue de la violence et du religieux. Bien que français d'origine, il fit toute sa carrière universitaire aux États-Unis en tant que professeur de littérature comparée dans des universités telles que Johns Hopkins ou encore à Stanford. Et sachez qu'il a été par ailleurs élu à l'Académie française l'année de sa mort, en 2005. Voilà. Alors, quel est le cadre général de cet ouvrage, La violence et le sacré ? Et plus généralement de toute son œuvre, il faut savoir que René Girard développe un cadre d'analyse permettant d'expliquer le fonctionnement et le développement des sociétés humaines, et tout particulièrement en ce qui concerne l'origine des pratiques religieuses. Et pour bien comprendre les réflexions de l'auteur, il est tout d'abord important de noter que celles-ci prennent racine dans deux questionnements successifs. Premièrement, quel mécanisme essentiel permet d'expliquer la violence dans les sociétés humaines ? Et deuxièmement, comment les sociétés humaines parviennent-elles à survivre malgré leur violence ? Alors commençons par nous demander quel est le mécanisme central expliquant la violence au sein des sociétés humaines. À cela, René Girard répond qu'à l'origine de toute violence se trouve ce qu'il nomme le désir mimétique, c'est-à-dire le désir d'imiter ce que l'autre désire, de s'approprier ce que l'autre possède. Ici, tout désir est considéré comme une imitation du désir de l'autre. Le fait qu'une chose soit possédée par un autre la rend en soi désirable au point de déclencher des pulsions violentes pour son appropriation. Dès lors, contrairement à ce que nous pensons communément, nous ne savons pas ce que nous désirons, nous ne savons pas vers quel objet tourner nos désirs, ce n'est que rétrospectivement que nous donnons un sens à notre choix en le faisant passer pour un acte délibéré. On ne désire donc pas une chose pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente aux yeux des autres. Or, que se passe-t-il quand plusieurs individus désirent la même chose ? Écoutez, ils se battent, voire s'entretuent pour l'obtenir. Pour René Girard, le désir mimétique est par conséquent à l'origine d'une rivalité meurtrière entre les individus. Et dans cette perspective, le recours à la violence, via l'élimination du rival, véritable obstacle à la réalisation de son désir, constitue le seul moyen de satisfaire ce désir mimétique. Toutefois, cette violence serait soutenable socialement si elle se cantonnait à quelques individus isolés. Or, René Girard montre que ce qui rend cette violence éminemment dangereuse est le fait qu'elle soit contagieuse, dans la mesure où le désir mimétique tend à se propager à la société tout entière, de sorte que le conflit mimétique se transforme en guerre de tous contre tous, pour reprendre les termes de Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle. Ainsi, lorsque le principe du désir mimétique s'applique à grande échelle, celui-ci conduit à la destruction sociale généralisée. Pire, la violence engendre la violence dans un enchaînement infini sous l'effet du mécanisme de la vengeance. Néanmoins, force est de constater qu'au cours de l'histoire, les sociétés ont survécu à cette effroyable loi du désir mimétique. Comment expliquer cela ? C'est ici que nous devons aborder le deuxième axe central de l'œuvre de René Girard, à savoir la théorie du bouc émissaire, qui consiste à relier l'apparition du sacré au problème de la violence, d'où le titre « La violence et le sacré ». À partir d'une relecture attentive des mythes ancestraux d'un très grand nombre de cultures, l'auteur met en évidence le fait que ceux-ci racontent pour la plupart la même histoire, à savoir la neutralisation de la violence par le biais du sacrifice d'une victime appelée bouc émissaire. Pour rappel, un bouc émissaire est un individu innocent sur lequel va s'acharner un groupe social dans le but de s'exonérer de sa propre faute ou masquer son échec. Notons donc qu'avec la théorie du bouc émissaire, René Girard va à l'encontre de l'idée selon laquelle le sacrifice religieux serait destiné soit à calmer la colère des dieux, soit à tester la foi du croyant, puisque d'après lui, le sacrifice serait avant tout une affaire humaine consistant à mettre fin au cycle de violence provenant de la loi du désir mimétique. Dans ce cas, le bouc émissaire, qu'il soit humain ou animal, est mobilisé par les sociétés chaque fois que celle-ci replonge dans la violence. Le bouc émissaire va dès lors recueillir en sa seule personne toute l'agressivité de la société, transformant le tous contre tous, en tous contre un. Et c'est précisément sur ce point que la théorie du bouc émissaire permet d'expliquer l'émergence du sacré, dans la mesure où, d'après René Girard, par un retournement paradoxal, la victime est divinisée pour avoir ramené la paix au sein de la communauté. Cette dernière apparaît donc pourvue d'un pouvoir prodigieux de déchaîner la crise comme de ramener la paix. Et donc, à chaque crise de violence mimétique, la société répond par des sacrifices symboliques, fortement ritualisés, afin de rétablir magiquement l'ordre dans les sociétés. Dès lors, le sacré serait indissociable de la violence, en ce sens qu'il procéderait de la violence, donc de la volonté des hommes, de la neutraliser. Pour finir mon analyse de cet ouvrage, notons que René Girard se montre très pessimiste quant à l'évolution possible de l'humanité. En effet, au cours de l'histoire, les sociétés humaines se sont progressivement privées de la possibilité d'user de la carte du bouc émissaire. Et ce, pour plusieurs raisons, dont notamment le refus de la violence arbitraire exercée sur autrui, ainsi qu'une rationalisation de notre rapport au monde, et donc la prise de conscience d'une absence de relation de cause à effet entre le sacrifice et la neutralisation de la violence. Dans ce cas, notons que d'après l'auteur, les sociétés privées du recours au sacrifice d'une victime émissaire deviendraient de plus en plus violentes, et ce malgré le fait que les civilisations ne cessent de développer, pour contenir cette violence, de nouveaux moyens, tels que la reconnaissance croissante de droits et de libertés accordés aux individus, ou encore de nouvelles valeurs morales telles que l'amour du prochain prônées par de nombreuses religions. En effet, Girard souligne que dans les sociétés modernes, durant les périodes de recrudescence de la violence associée à la survenue de, par exemple, crises économiques, sociales ou politiques, on a recours encore à cette carte du bouc émissaire. Et donc tout se passe comme si nos sociétés avaient oublié qu'il s'agit d'un procédé barbare et irrationnel. En témoigne, par exemple, le cas de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres qui, frappée par une grave crise économique et des tensions sociales extrêmes, redirigea toute sa violence vers des boucs émissaires tels que les homosexuels, les communistes, les tziganes et bien entendu les juifs. Donc, pour conclure, certes, cette analyse effectuée par René Girard dans La violence et le sacré, je vous l'accorde, n'est pas exempte de nombreuses critiques que je ne vais pas mentionner faute de temps. Toutefois, cette dernière atteste d'une pensée, j'insiste, vraiment originale, permettant de mieux comprendre la nature biaisée de notre désir, les causes profondes de notre violence, ainsi que notre inspiration instinctive au sacré. Et d'autre part, ces analyses s'avèrent particulièrement intéressantes aujourd'hui pour expliquer la prolifération du désir consumériste, la recherche effrénée de spiritualité, ainsi que les discours politico-médiatiques jetant leur dévolu sur les immigrés, les chômeurs ou encore les musulmans. Moralité, ce qu'il y a de primitif dans l'homme n'est pas éradiqué et peut ressurgir à tout moment, surtout en temps de crise.
Vous venez d'entendre un titre choisi par Clément, il s'agit de Death in the Family du groupe Sparta. Il nous reste plus beaucoup de temps avant de rendre l'antenne, je vais donc laisser la parole à Fabien pour sa dernière chronique. Ce soir, il tente de nous expliquer en moins de 2 minutes le mot thermodynamique.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre.
Le Dic Auvergne.
Bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Alors oui, j'ai choisi thermodynamique, je voulais pas prendre soutenance parce que je voulais terminer sur un mot plein d'énergie. Alors je vais quitter le monde juridique pour vous parler de thermodynamique. Avant de commencer, je présente mes excuses aux scientifiques qui sont en train de nous écouter et je décline toute responsabilité en cas d'AVC ou arrêt cardiaque ou autre accident. Alors on va commencer simplement, donc la matière, c'est ce que moi j'appelle les sciences dures, c'est-à-dire la physique et la chimie. Très simplement, c'est la science de l'énergie, la thermodynamique. Alors cette science est née au XVIIe siècle, mais n'a connu son véritable essor que pendant la révolution industrielle au XIXe siècle, notamment avec les travaux de Ludwig Edward Boltzmann. Le but était de théoriser et de mieux comprendre les machines thermiques, et notamment à cette époque les machines à vapeur, qui étaient inventées à l'époque comme la locomotive par exemple. Elle permet d'aborder des concepts fondamentaux en physique, comme l'énergie, sa création et sa disparition. Le nombre d'applications de la thermodynamique est immense. C'est une science majeure de l'ingénieur. Et bien d'autres encore. Alors pour ceux qui ne suivent plus, voilà des exemples concrets d'applications pour y voir un peu plus clair. Une des célèbres applications de la thermodynamique est un objet que nous voyons tous les jours par dizaines, j'ai nommé la voiture, avant d'être un assemblage mécanique, un moteur de voiture et surtout une machine thermique. Mais il y a beaucoup d'autres applications que nous côtoyons au quotidien, le frigo, le chauffage et nos cellules, parce que nos cellules sont des mini-systèmes thermodynamiques, et même nos ordinateurs, car il faut bien refroidir les circuits de nos bécanes. Essayons maintenant d'aller un peu plus loin. Effectivement, pour parler de la thermodynamique, il faut des unités de mesure, et nous les connaissons déjà. Il y a par exemple le volume exprimé en mètres cubes, l'énergie exprimée en joules, la puissance en watts, ou encore la pression en pascal. D'autre part, dans un cours de thermodynamique, il est question de système thermodynamique, c'est-à-dire un corps, pas le mien, enfin ça pourrait, qui contient des particules. Dès lors, il existe différents types de systèmes thermodynamiques, isolés, fermés, ouverts. Pour les distinguer, il faut que le scientifique démontre s'il existe ou pas des échanges d'énergie et de matière. Par exemple, un système thermodynamique isolé n'échange ni énergie ni matière avec l'extérieur. Un thermos de café, par exemple. En gros, pour vulgariser vraiment le truc, et là je m'excuse, mais la thermodynamique, c'est l'étude de ce qui rentre et de ce qui sort d'un corps. Je vais conclure par une note un peu plus sérieuse, car en effet, la thermodynamique est un domaine d'étude important dans un monde qui doit accomplir une transition énergétique sous peine de s'autodétruire.
Merci Fabien, et c'est donc sur le mot thermodynamique que nous allons nous quitter ce soir. Je vous l'ai dit, c'était la dernière chronique de Fabien, donc si vous souhaitez vous essayer à la définition d'un mot de votre thèse, un mot un petit peu compliqué, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous entendre. De même, si vous êtes doctorant ou jeune docteur et que vous souhaitez partager votre humeur, discuter de l'actualité ou présenter vos travaux de thèse, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Et si vous aimez simplement nous écouter, ce qui n'est déjà pas si mal et qui peut être aussi très agréable, vous pouvez nous retrouver en direct tous les 1er, 3e et 5e mercredis du mois de 19h à 20h sur les ondes de Radio Campus au 93.3. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur le site de la radio www.campus-clermont.net, leur application mobile ou sur le site de l'association Doctovergne www.doctovergne.fr. Également sur notre page Facebook. Et si vous êtes complètement fan de notre émission, vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur la page YouTube de Doctovergne. Sur cette bonne nouvelle, je vous souhaite une belle soirée. Et n'oubliez pas que demain, si vous voulez vous réchauffer le cœur en cette période hivernale et glaciale, il y a le premier Live in Room en direct et en public à partir de 18h. Bonne soirée à tous.
Vous venez d'écouter Quad Note Doc, l'émission de Doctovergne.